RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h05, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. On est avec Denis Charvet, Stephen Brun, Adrien Gouet, mon petit Pierrot. Dans une demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, Vincent, quand même, on parlera des Irlandais qui ont fait ce grand chelem. Dans la difficulté, hein, certes, face à l'Angleterre, mais il faudra quand même y revenir. Avant cela, dans quelques secondes, on reçoit Jean-Michel Aulas, président de l'OL. C'est l'événement aujourd'hui sur RMC. Et puis à 17h, avec Eric Dimeco, le PSG peut-il se saborder en cette fin de saison? Vous appelez le 32-16. Quel est le programme du journal moyen, Adrien?
On a de la chance. Denis est sorti du bois lors du dernier match du tournoi. J'ai du très bon Denis Charvet dans le journal moyen. Je sais que vous adorez ça. Du David Douillet, ouais, du Kevin Diaz.
Je sais ce que c'est pas grave.
Tao, seconde Tao.
Et puis je vous rappelle que toute cette semaine, on vous offre les meilleures places des matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023 avec la possibilité de gagner le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle. Le signal pour déclencher votre SMS, c'est celui-ci. Vous écoutez le Super Moscato Show jusqu'à 18h et si vous entendez ce signal, il faut envoyer coupe par SMS au 7.
Il y a eu un peu de d'iris bleu. Qui est
Allez,
parti,
tout de suite, nous recevons un vrai lion.
Normalement, les lions évitent de chasser quand il fait trop chaud, mais l'occasion est trop belle.
L'Olympique Lyonnais veut revenir au premier plan. On veut revenir numéro 1 en France.
Par cette chaleur, les félins s'épuisent rapidement.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Ils doivent donc neutraliser le buffle au plus vite.
Il n'y a pas de prolongation envisageable dans l'état actuel des choses.
Même isolé, un buffle est un adversaire redoutable.
Bah vous savez, prendre 4-0, ça fait toujours très mal.
Jean-Michel Aulas, président fondateur de la société CJ, des présidents directeurs généraux d'OL Group dans le Super Moscato Show en direct sur RMC. Bonjour président.
Bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue
bonjour,
président.
Bienvenue.
Et je Merci sais que dans, beaucoup. Deux jours, c'est votre anniversaire, donc par avance, je vous souhaite souhaiter ça avec un bon champagne, bien entendu. Voilà.
Oui, vaut mieux au champagne qu'au Beaujolais, c'est vrai.
Oui. Ou alors si vous êtes un homme de goût, vous prenez du Gaillac. Mais bon, c'est...
Ou du Cahors. Alors là, c'est plutôt si on est suicidaire. À une époque, vous envoyiez des chocolats pour la nouvelle année à Vincent. C'est une tradition qui se perd, j'ai l'impression, président Aulas.
Vous le punissez.
Voilà, il faut que je vérifie parce que effectivement, j'avais entendu ça. À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait en fait une dérivation des chocolats qui étaient partis pour mon ami Riolo, mais apparemment c'est pas le cas.
C'est un chenapan comme vous l'avez rappelé un jour à l'antenne. Jean-Michel Aulas, chaque jour se réinventer, c'est le titre de votre biographie aux éditions Stock. C'est un livre qui retrace votre parcours. Alors parcours qui démarre avec un BTS d'informatique et jusqu'à aujourd'hui. L'OL arrivant en 1987 dans votre parcours. Dites-nous d'avoir un mot de votre parcours professionnel hors foot, parce que c'est quand même une réussite qui est assez bluffante. Suite à ce BTS, vous fondez une boîte à 19 ans avec trois amis de la promo, qui s'appelle le SLAP en 1969, qui deviendra la CJ puis la CEGID. Si on fait le bilan, ce qu'était le SLAP en 69 et ce qu'est la CEGID en 2023, c'est plus qu'un grand écart. C'est quoi les chiffres de cette réussite?
Bon, ben SLAP et CJ étaient des sociétés, des startups, donc toutes petites et qui se sont développées rapidement. CJ a été cédé 3 ans après à un très grand groupe. Et par contre, CEGID que j'ai créé, alors là aussi... ex nihilo, donc en 1983. Aujourd'hui, je suis toujours d'ailleurs président non exécutif parce que les Américains qui ont repris le groupe en 2016 ont souhaité que je reste. C'est pratiquement 4000 personnes et 700 millions de chiffre d'affaires.
Et donc, c'est par la CEGID que vous entrez à l'OL. On va y revenir après. Mais il y a un premier événement que je pense le grand public ne connaît pas. Avec la CEGID en 1984, vous faites signer un contrat d'image à Carl Lewis.
Oui, ben on était très orienté sport parce qu'il y a eu effectivement Carl Lewis et ses performances m'avaient scotché. Bon, vous savez, toujours été fanatique des gens qui réussissent très bien. Donc, on avait anticipé ces victoires aux Jeux Olympiques et fait signer ce contrat-là. Par la suite, on a eu la chance de travailler puisque j'étais le partenaire sponsor d'Alain Prost jusqu'en 87 avec Brandzatch et sa première victoire au championnat du monde.
Mais comme vous aimez les gens qui vont vite, pourquoi reprendre l'OL, Jean-Michel ?
Ah bah justement.
Ben, parce que en fait, c'était pas prévu du tout, et j'ai voulu rendre service. Bon, vous savez que je suis toujours quelqu'un qui a une oreille attentive aux propositions d'autrui, et quand on m'a demandé de devenir en fait le partenaire, mais sur un plan sponsoring, j'ai accepté. Et puis entre-temps, je me suis retrouvé à la tête du club qui était en deuxième division. Je démarrais effectivement assez mal en point sur le plan sportif en deuxième division, mais aussi sur le plan économique, parce que je crois qu'on perdait à peu près autant que le chiffre d'affaires du groupe à l'époque.
Il y a un personnage du football français qui vous pousse, et même vous l'ignorez, mais qui œuvre en coulisses pour que ce soit vous le nouveau président de l'OL. Cette personne, c'est Bernard Tapie, vous le racontez dans le bouquin.
Oui, tout à fait. Bon, comme tous les grands hommes, Bernard Tapie avait un certain nombre... Bon, tout d'abord, il avait un charisme exceptionnel, un certain nombre de facettes positives et puis probablement moins positives. Mais en tout cas, sur la relation que j'ai eue avec lui au début, c'était tout positif. Et j'explique effectivement dans le bouquin que Bernard Tapie avait été sollicité pour défendre les intérêts du président Bouygues quant à la privatisation de TF1. Et c'est lui qui, à l'époque, a accroché ce développement. Voilà. Et donc, on a travaillé sur des émissions de télé. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Ambition, qui permettait à jeunes dirigeants d'entreprise de montrer au grand public ce qu'il était possible de faire. Et voilà, donc on avait sympathisé à l'époque.
Alors Jean-Michel va vous raconter tout ça donc dans Chaque jour sera inventé, le parcours professionnel à la CJ puis le sportif. Alors il y a plein d'aspects, hein. Évidemment il y a l'aspect dirigeant, hein, comment on gère un club de foot, on parlera peut-être tout à l'heure des transferts, etc. Mais il y a aussi vos relations avec les arbitres par exemple, ou encore la communication. Je vous avoue que j'ai lu une phrase qui m'a fait rire énormément. Sur la communication, vous dites qu'en arrivant à vos postes de président de l'OL, je vous cite, les premiers mois, je suis un peu assourdi par ce tapage médiatique et parfois déboussolé par les accès de mégalomanie dont ils menacent ceux qui manquent de lucidité. Honnêtement, j'avais l'impression que vous étiez en train de vous décrire quelques années plus tard avec Twitter. Est-ce que vous n'êtes pas un peu devenu cette caricature que vous découvrez en 1987?
Bon, peut-être. De toute façon, vous êtes des observateurs tout à fait convaincants. Bon, maintenant, moi, j'ai essayé justement en gardant d'une part la responsabilité de Cegid et puis avec tout un tas d'autres entreprises dans lesquelles j'ai investi, de ne pas rester à 100% dans le foot parce que j'avais l'impression que cette description de la mégalomanie pouvait vous tomber dessus. Alors j'ai essayé de m'en échapper, mais ceci étant, il y a des grandes évolutions aussi médiatiques et les réseaux sociaux ont créé aussi une possibilité de pouvoir se défendre quand on est un tout petit président de province contre les grandes institutions médiatiques nationales. Et donc voilà, donc ça a permis de gagner un peu de temps, c'est vrai. Bon, est-ce que c'est de la mégalomanie ou au contraire la prise en compte d'un phénomène qui était tout à fait nouveau? À l'époque, les réseaux sociaux et Twitter en particulier n'étaient pas ce qu'ils sont.
Non, ça n'existait pas, mais ça veut dire qu'en gros, vous assumez d'avoir parfois une communication outrancière si c'est pour le bien de l'OL. Ça, c'est quelque chose que vous assumez dans votre parcours. Quitte à énervé, quitte à choqué, quitte à être le vilain petit canard.
Oui, exactement. Et je pense que Dieu et les grands commentateurs retrouveront les siens, les leurs. Bon. Et donc, il y a toujours, c'est vrai, il y a toujours l'utilisation de ce qui peut permettre de gagner du temps. Parce que le foot en tant que tel, c'est pas facile de gagner. C'est aussi quelque chose qui use. Et soit vous utilisez un certain nombre de moyens pour rester d'aplomb, debout, face à face avec les événements, soit vous vous laissez complètement éteindre et mouliner.
Alors je vais vous parler d'un exemple précis. C'est l'année du Covid, l'année où le championnat est arrêté. Vous militez alors à grand renfort de communication, là pour le coup ça vous savez faire, pour la poursuite du championnat. Honnêtement, Jean-Michel Aulas, est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui, cette année-là vous avez milité pour votre club, pas pour l'intérêt général. Si l'OL avait été deuxième à ce moment-là, vous auriez milité et à grand renfort de communication pour l'arrêt du championnat. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non ?
Non, non, absolument pas. Là, je pense que il faut que vous relisiez mon livre dans les deux sens, en commençant par la fin et une autre fois en commençant par le début. Non, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi et vous allez le comprendre. Dans le championnat féminin, nous étions premiers. Avec cette équipe formidable. Et j'ai proposé à la fédération, puisque j'étais à l'époque à la fédération, que le titre ne soit pas décerné parce que le championnat s'était pas terminé. Et on m'a dit le championnat va être terminé.
Jean-Michel,
et
y a pas les mêmes
le Paris Saint-Germain a été sacré champion, ce qui était tout à fait normal. Non, non, franchement, je l'ai fait. D'une part, parce que effectivement, il y avait un intérêt pour les clubs d'une manière générale, mais n'oubliez quand même pas qu'on a été les seuls en Europe à ne pas terminer et que Alexander Seferin avait pris une position extrêmement claire et nette en disant les fédérations qui ne suivront pas la règle UEFA pourront avoir un certain nombre de sanctions. Donc non, j'ai suivi la règle qui avait été dictée par l'UEFA et qui était entre nous complètement normale.
Vous êtes prêt à le jurer sur la tête de Roten ? Vous êtes prêt à le jurer ?
Juste pour conclure...
Je suis pas sûr. Hein.
Jean-Michel Aulas, pour conclure sur votre façon de communiquer, évidemment, on sait que, comme vous venez de le dire, tout est calculé, c'est pour gagner du temps, etc. Mais parfois... Après une interview au micro, vous rentrez chez vous le soir, est-ce que vous êtes dit parfois, là j'ai pas été bon, et même j'ai été mauvais, j'aurais jamais dû dire ça. Ah oui. Est-ce que c'est arrivé ?
Avoir été bon, oui. Avoir été mauvais, je sais non. pas. Non, mais,
est-ce que vous bon,
mais en tout cas, c'est très rare hein, quand même.
Le pipe que je suis, alors.
En début de saison, vous avez dit, si c'est pour finir 8e, j'aurais démissionné bien avant. Ça, vous l'avez peut-être regretté, non ? Parce qu'aujourd'hui,
Mais il y a plein de... 8e. Bien sûr, non, il y a plein de choses. Enfin, ceci étant, le championnat... Et jamais terminé complètement tant qu'on reste.
Sinon, vous démissionnez si vous finissez 10e.
Ouais, mais bon, en général, on vient me rechercher. Alors c'est pour ça d'ailleurs que maintenant la situation est différente parce que peut-être que John, lui, ne viendra pas me rechercher.
Le patron qui démissionne, c'est toujours embêtant. Quoi. En général, il refuse sa démission.
Il y a une phrase célèbre aussi en 2015. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol à l'époque où Vincent Labrune était président de l'OM. Ça, vous auriez pu le regretter le lendemain matin au petit déjeuner.
Bah non. Non, parce que en fait, sur le coup, pour ceux qui étaient présents à Marseille, ils auront bien compris qu'il s'était passé un certain nombre de choses extraordinaires. Bon, et c'est là où on voit que Vincent est quelqu'un de vraiment fantastique, c'est qu'il a su rebondir après et faire en sorte d'être notre président tant aimé de la Ligue nationale. Il n'y a pas de problème.
Jean-Michel, on va parler de l'actualité du club et de l'actualité du foot français, mais Vincent, vas-y d'abord.
Moi, ce qui m'a plu dans le bouquin, c'est que vous êtes confié quand vous dites j'aurais aimé racheter Saint-Etienne.
Alors on va en parler de Saint-Etienne, tiens justement. Alors Jean-Michel Aulas, un autre.
On n'a pas lu le même bouquin, Vincent.
c'est pas là où il y avait du coloriage, c'est moi qui.
Un autre exemple dans votre parcours où votre communication a fait beaucoup parler, c'est en 2010 à la fin de ce Lyon Saint-Etienne derby remporté 1-0 par les Stéphanois. Il se passe ceci à la fin du match.
On a perdu ce soir et quand on perd d'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation. La Champions League.
Oui, il a joué à la PlayStation, la Champions League. On apprend dans le bouquin, alors vous l'aviez peut-être déjà dit, mais que ça n'a pas grand-chose en fin de compte de spontané ou en tout cas à l'attention des supporters pour noyer le poisson. C'est juste que ce jour-là, vous avez peur pour la sécurité, vous avez peur que des heurts éclatent entre les forces de l'ordre et vos supporters et vous dites ça pour allumer un contre-feu. On apprend ça dans le bouquin.
Oui, exactement, parce que je suis en tribune officielle avec le préfet de police et qui veut faire vider avec la force des CRS le stade. Et j'arrive à le convaincre en lui disant non, il faut pas faire ça, parce que je savais que ce serait irrémédiable. Les supporters ne veulent absolument pas être délocalisés de leur stade. Et donc voilà, donc je me suis engagé à aller. Il y avait 3 ou 4 000 supporters qui étaient restés là, et j'ai essayé de trouver les mots qui faisaient en sorte que eh bien on puisse sortir par le haut. Et effectivement, tout le monde est parti avec une bonne bière, et ça a fait du bien.
Et alors, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dans ce livre, vous parlez très peu de Saint-Étienne, finalement, hormis sur cet épisode-là. J'avais une question à vous poser, Jean-Michel Aulas, à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me répondre sincèrement? Est-ce que, intimement, vous ressentez une profonde aversion pour Saint-Étienne? Est-ce que vous détestez l'AS Saint-Étienne, ou est-ce que tout ça, ça fait partie du package quand on est président de l'Olympique Lyonnais, de participer à cette rivalité? Est-ce que vous détestez Saint-Étienne?
Non, je pense pas, parce que, bon... on a tous été plus jeunes supporters de Saint-Étienne quand Saint-Étienne était au plus haut du championnat français. Alors, ceci étant, à partir du moment où on s'engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs. Mais non, il n'y a pas de... Bon, d'ailleurs, dans mes vies professionnelles, j'ai toujours eu de très très bons clients à Saint-Étienne, et je les ai toujours...
Vous les préférez en Ligue 1 ou en Ligue 2?
Non, mais moi, je pense que le derby en Ligue 1 est le plus beau derby de France. Oui. Donc il faut qu'il remonte en première division.
Il faudrait pas que ça devienne un derby en Ligue 2.
Alors, parlons-en de cette saison en cours qui est quand même un cauchemar en tant que président, non?
Alors, c'est pas un cauchemar, mais c'est très difficile. On n'arrive pas à remonter là où on devrait être. Pourtant, on a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On investit, on a changé de coach en faisant venir quelqu'un qui a l'expérience, qui aussi est indépendant sur le plan de ses idées. On vient de demander à Sonny Anderson de venir nous donner un petit coup de main sur le plan du consulting pour essayer de voir qu'est-ce qui, dans nos décisions, éventuellement ne fonctionne pas. Mais on n'est pas encore sorti d'auberge. Alors, ceci étant, il reste encore un certain nombre de matchs. Il y a la demi-finale de Coupe de France, ouais, qui représente pour tous les supporters lyonnais une immense bouffée d'oxygène, donc avec toutes ces conséquences positives si on passe et négatives si on ne passe pas. Et puis, on a notre équipe féminine qui fonctionne toujours bien. Et puis aussi l'Académie, qui est la première Académie de France, mais aussi pratiquement d'Europe, avec tous les jeunes joueurs qui sortent. Donc, le bilan est pas bon sur l'équipe première, mais il est plus acceptable sur le plan global.
Et Laurent Blanc, qui ne fait pas mieux que Peter Bosz, sera toujours votre coach l'an prochain?
Oui, bien sûr. Laurent est un... Moi, je le connaissais pas dans l'exercice de ses fonctions. Je le connaissais de l'extérieur. Bon, je l'ai dit, il y a 3 ans, il aurait dû devenir le coach de l'Olympique Lyonnais. Ça s'est pas fait. Bon, aujourd'hui, il est là, et personnellement, j'en suis très heureux. Et il démontre à tous les gens qui pouvaient être sceptiques parce qu'ils le connaissaient pas bien, qu'il a les qualités pour nous mener au plus haut. Et moi, j'en suis convaincu.
Et c'est pas trop dur pour vous de... Bon, maintenant, il y a Textor, vous n'êtes pas un numéro 2, vous ne l'avez jamais été de votre vie. Comment vous la gérez, cette position? Parce que le jour où il va quand même vous dire, oh, vous allez, s'il vous plaît, vous calmer, monsieur Aulas, ou un truc comme ça, c'est pas possible, on ne peut pas parler comme ça, monsieur Aulas.
Non, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, mais... Bon, moi, j'ai d'une part l'expérience de travailler avec des groupes américains très importants dans d'autres activités. Bon, et ça depuis des années. Donc, voilà. Et deuxièmement, dans le contrat que nous avons négocié, même si John est devenu l'actionnaire principal, et c'est bien parce que c'est un chic type, c'est quelqu'un qui a plein d'idées sur le plan... Ben, entre autres, bien sûr, il a des idées.
Oui, il a les deux.
Ben, il en a un peu moins maintenant, idées. Mais ceci étant...
Ah, vous lui avez fait une belle ponction, ça vous a fait du bien, ça, quand même.
Mais ceci étant, on travaille la main dans la main, et on a défini pour les 3 années qui viennent une sorte de plein pouvoir sur le périmètre olympique Lyonnais Group. Donc, moi, je fais appel à lui de manière permanente. Lui-même m'interroge parce qu'il y a des fois, il y a plein de choses à expliquer. Mais donc la collaboration à l'instant T se passe bien. Le jour où elle ne sera pas à la hauteur de mes ambitions, bon, je suis plus un petit garçon. Donc voilà. Bon, je suis aussi actionnaire de la structure globale qui permet de gérer le tout. Je suis administrateur d'une société américaine, Eagle, dans laquelle il a regroupé tous ses actifs en matière de. Donc c'est une belle expérience aussi pour moi.
Mais ça veut dire que si vous avez moins de pouvoir, vous partez ?
Ah oui, oui, bien sûr.
Très bien. C'est pas possible autrement, bien sûr.
Denis Charvet.
Président, il y a quelques années...
L'âge pour ça.
vous en souvenez pas, président, il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, après une demi-finale du championnat de France à Lyon, on se retrouve dans un ascenseur avec Serge Kampf, patron de Capgemini, chef d'entreprise. Ouais. Et vous lui demandez est-ce que vous voulez venir investir à Lyon. Et il vous dit je perds assez d'argent dans le rugby, je vais pas en perdre un peu dans le football. Mais je vous pose cette question parce que finalement, à l'arrivée, vous n'avez pas perdu d'argent puisque la vente de l'OL vient de se faire et vous avez gagné de l'argent.
Alors, évidemment, quand on parle d'investissement et de sortie d'investissement, le solde est positif. Donc à partir de là, les choses permettent de voir dans une perspective positive cette sortie de l'OL. Pour revenir à Serge Kampf, parce que Denis, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quelqu'un... Serge, qui m'a beaucoup impressionné en tant qu'entrepreneur, avec qui j'avais de très très bonnes relations. Il m'a fait aimer aussi le rugby, parce que je suis un adepte du rugby, et chapeau pour le match contre Galles, et encore plus pour le match contre les Anglais. Quelle raclée, c'est incroyable. Et donc voilà. Donc pour répondre à la question, oui, globalement, bien sûr, comme on est société cotée en bourse, tous les gens qui sont sortis avec une valorisation exceptionnelle, puisque la valorisation globale avec les dettes, puisqu'il a fallu reprendre les dettes du club, est une valorisation qui dépasse les 800 millions d'euros.
Il s'était trompé.
Jean-Michel Loas, quelques questions d'actu rapides, mais il faut absolument que... Parce que peut-être que l'info, vous pouvez nous la donner. Vous êtes avec la Fédération française de football à la tête de la cellule qui va trouver le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce qu'Hervé Renard... Et le sélectionneur que vous voulez, et est-ce que c'est fait ? Alors on se parle.
Bon, alors vous savez que quand on est à la fédération, on doit moins parler encore qu'ailleurs. Donc c'est toujours difficile. Hein, mais ceci étant, je peux vous dire que bon, il est en bonne position. Bon, je l'ai tous les jours au téléphone, comme d'autres. Les choses ne sont pas réglées. Il reste aussi
un autre. Il faut s'arranger avec l'Arabie Saoudite.
Ben entre autres.
D'accord. Et il reste un autre candidat ?
Oui, il y a toujours plusieurs candidats parce qu'on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas. Mais le contact avec Hervé est un contact vraiment très positif. Et vous savez, on a la chance de jouer dans 5 mois Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande. Pour des rugbyman, c'est quand même un truc... Et donc j'espère y aller d'ailleurs pour voir de près comment ça se passe. Et puis l'année d'après, vous avez les Jeux Olympiques qui sont en France. Une partie du foot féminin et masculin va se jouer d'ailleurs dans notre stade, le Groupama Stadium. Et l'année d'après, peut-être le championnat d'Europe féminin aussi en France. La France est candidate. Donc il y a là un cycle absolument extraordinaire, en tout cas pour les 2 premières années avec certitude. Et moi, je pense qu'il faut être très très ambitieux. Donc il faut changer les habitudes, il faut sortir des sentiers battus et puis se donner les moyens d'aller chercher en Nouvelle-Zélande et en Australie cette Coupe du Monde. C'est pas normal que les féminines soient en retard sur les garçons.
Jean-Michel Aulas, chaque jour se réinventer. Alors pour tous les fans de l'OL, vous allez revivre les plus belles années, les moins belles aussi. Alors avec par exemple l'affection particulière que vous avez pour Gérard Houllier, probablement le meilleur entraîneur que vous ayez eu, le plus grand regret Didier Drogba, le pire transfert Johan Gourcuff, le meilleur, le plus réussi Sonny Anderson. Et à la lecture de ce bouquin, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous rêvez encore d'un dernier coup de faire revenir Karim Benzema? Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est de l'utopie totale, ça n'arrivera pas? Ou est-ce que vous y rêvez encore?
Non, alors j'y rêve tous les jours, mais c'est compliqué. C'est compliqué, oui, bien sûr, on va essayer, mais bon, c'est très compliqué. Et plus il réussit au Real Madrid, bon, je regardais hier le match contre le Barça, perdu 2-1. Bon, certains l'ont pas trouvé au sommet de sa forme, moi j'ai trouvé très bon, personnellement. Et c'est vrai que si on avait la possibilité, une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques, parce que c'est plus qu'un potentiel, c'est un symbole, c'est un symbole.
Et pour faire revenir Juninho.
Non, mais voilà, je vais vous dire, parce que Vincent, c'est une bonne question. Juninho, je l'ai adoré, je l'ai fait venir, j'ai payé pendant des années son retour du Brésil, puisque ça a été le premier joueur, ça n'est jamais dit, mais qui est sorti de son contrat brésilien. Parce qu'à l'époque, les joueurs au Brésil avaient un contrat à temps qui ne se finissait jamais avec... Donc les choses ont été claires. Bon, et puis, je lui ai donné tous les pouvoirs quand il est revenu comme directeur sportif. J'ai peiné pendant 2 ans pour le faire revenir, et puis ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est 100% de ma responsabilité ou 50% des deux côtés, je sais pas, c'est à vous de juger, mais en tout cas j'ai tout fait pour qu'il soit l'homme de la situation, et j'en aurais rêvé.
Merci beaucoup Jean-Michel Aulas.
Merci Jean-Michel.
Merci à Edouard G. également.
Avec plaisir, en tout cas je vous écoute vous régulièrement.
Ah ouais, merci.
Et je me marre.
Merci à Edouard G. également. Merci. Chaque jour se réinventer aux éditions Stock, pour tous ceux qui veulent se plonger dans le parcours de Jean-Michel Aulas. Dans un instant, Vincent, l'Irlande, le Grand Chelem, c'est le Super Moscato Show, à tout de suite.